Tout à fait.
Bon, je vais vous lire un extrait du livre 2 de Combes qui, me semble-t-il, montre assez bien ce qu'il peut en être du renfermement de l'écrivain, même à l'extérieur d'une maison. Le soleil semble soudain se retirer et la douleur qui tantôt le retenait s'efface. Un livre tient un livre. De cette marche à travers champs, il supporte la chaleur, s'arrête au moment où il se retourne. De chaque côté de lui, ce qui passe retient son attention, moins pourtant que cette douleur agaçante dont il se souvient, comme de son visage caché par l'ombre, un peu gris. Ou encore ce qu'il nomme la nudité. Était-elle attachée ou libre? Il se retourne. Un livre le retient de vivre, cette signature et ce qui ressemble au plaisir, moins à la douleur de ces immeubles gris et à ces va-et-vient qu'il fait devant la porte depuis qu'il sait et qu'il attend, depuis que la menace pèse soudain. Autant que je puisse m'en souvenir, aujourd'hui, la chaleur garde le paysage dans cette immobilité. À droite et à gauche, un rang de cyprès suit la courbe de la colline. Nous nous sommes un peu éloignés du village, peut-être. Mais ce retour attendu, chaque fois qu'il la regarde, et les arbres qui suivent la courbe des collines, et chaque fois qu'il la regarde, cette ombre qui passe dans ses yeux un peu gris, et comme elle retient sa respiration. Chacun se tait de chambre en chambre. Il est question de revenir dans une maison autour de laquelle circulent ces rumeurs. Et ce qui les habite n'est rien d'autre que cette rumeur confuse, tour à tour déplacée. Non pas un reste d'humanité, toute l'humanité en eux. Et pourtant, il reste immobile, indifférent à cet événement qui tente de les tirer de droite ou de gauche, ou de les accueillir. Ce qui se fait d'un côté comme une lumière plus jaune, porte son ombre, commence également. Et le livre qui se fait d'un côté se partage dans sa lecture et dans son immobilité. C'est ce que j'écris, et tout change.
Une lecture de Combes, votre troisième livre de poésie. Mais avant cette lecture, il me semble avoir reconnu un célèbre opéra de Mozart, non?
Eh bien, je crois qu'on a passé un extrait du Don Juan que l'on va entendre tout au long de cette émission, dans la mesure où il programme en grande partie le recueil de poésie qui vient de paraître aux éditions du Seuil, qui s'appelle Rimes. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, mais vous n'avez pas écrit beaucoup de textes théoriques, disons, sur la musique.
J'ai écrit quelques textes sur la musique, mais je n'ai pas écrit de textes théoriques sur la musique.
Dont l'un, d'ailleurs, a été traduit au japonais. En japonais, j'avais omis de vous le dire. Je suis contente de vous l'annoncer.
J'ai un texte sur la
oui,
musique.
Oui, oui, oui.
Qui a été traduit en japonais, vous voyez, cher ami. Votre couvre à des choses chaque jour.
Vous l'aviez délivré rue du Dragon, vous vous souvenez peut-être, sur la religiosité en musique.
Effectivement, c'est un texte qui est paru dans Musique en jeu.
Voilà.
C'est un texte qui est paru dans Musique en jeu, qui n'est pas vraiment un texte théorique, qui est plutôt un texte de réflexion sur,
oui.
sur la
notes.
Musique
sont
et sur la musique bref. Répétitive, notamment, sur la musique contemporaine et sur la musique répétitive. J'ai publié un certain nombre de textes sur la musique, sur John Cage, surtout sur la musique moderne et contemporaine, mais il y a dans le journal de longues notations sur la musique, sur précisément le Don Juan de Mozart, sur le Rex Progress de Stravinsky, il y a très très souvent sur Berg, il y a très très souvent dans le journal des notations sur la musique.
Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus le rôle que joue le rythme justement dans votre poésie, et aussi que Stanze est présenté comme une épopée musicale. Le sens des mots est habité par la musique, dites-vous.
Oui, et vous savez, je crois que c'est pour moi, me semble-t-il, presque une banalité d'associer la poésie et la musique, n'est-ce pas? Ce serait même presque une banalité d'associer la prosodie et la musique. Il est bien évident que tout langage littéraire, à partir du moment où il a une aspiration artistique, est un langage dont la construction obéit à des rythmes et que ces rythmes sont très difficilement rationalisables dans l'ordre strict de la phrase et de la syntaxe, et qu'on a alors presque immédiatement recours à des éléments musicaux.
Oui, j'ai l'impression quand même que le son vous préoccupe moins que l'image.
Pas du tout. Pas du tout. Le rapport...
Oui.
Le rapport. Non, il peut y paraître, effectivement. Vous avez tout à fait raison de souligner. Vous avez tout à fait raison de souligner ce que sans doute beaucoup de gens pensent, mais ce n'est pas vrai du tout. Le rapport au son est beaucoup plus proche et beaucoup plus intime que le rapport à l'image. Ce qui m'intéresse dans le rapport à l'image, en vérité, c'est un des aspects de la littérature. C'est son caractère visuel, n'est-ce pas? Et si je m'intéresse à l'image, si je m'intéresse à la peinture, c'est précisément que pour essayer d'enlever à la littérature et peut-être même à la peinture cette confusion qui porte sur le visuel. C'est-à-dire que les gens ont tendance à croire ce qu'ils voient, n'est-ce pas? Or, précisément, eh bien, un poème, ça n'est pas tellement de l'ordre du visuel, n'est-ce pas? Il est bien évidemment, ça passe par le visuel, mais c'est entièrement de l'ordre auditif. Ce qui fait que, si vous voulez, le travail que j'ai pu faire sur la peinture et l'espèce d'insistance que je peux mettre sur la peinture, par exemple, on peut dire que dans Rime, il y a plusieurs illustrations, n'est-ce pas? Il y a des figures dans Rime, il y a des figures dessinées dans Rime. Eh bien, si vous voulez, c'est simplement pour essayer d'évacuer de la lettre son caractère visuel et de lui restituer complètement son caractère auditif.